Nous allons lire dans Luc 16. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Cette histoire est une histoire très, très difficile. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Une des choses dont on est sûr sur Jésus, c'est qu'il disait la vérité. Et parmi tous les prophètes, tous les messagers de Dieu, Jésus, ensuite il y a l'apôtre Jean, Jésus parle de l'enfer. Vous savez, l'apôtre Jean, on l'appelle souvent l'apôtre de l'amour aussi. Mais l'apôtre Jean aussi est celui qui parle clairement en Apocalypse de l'enfer. Jésus est amour et Jésus est le serviteur de Dieu qui parle aussi très clairement de l'enfer. Et il nous donne une parabole ici dans Luc 16. D'où me vient cette prédication? C'est qu'avant-hier ou hier, je crois que c'était hier plutôt, j'étais en train de regarder les photos dans une école, les photos des gens qui ont fait le Téléthon, qui sont organisés pour animer le Téléthon, pour récolter des fonds. Ils étaient joyeux et ils semblaient avoir fait une bonne action. Et je me suis dit, ah Seigneur, même ces gens-là iront en enfer. C'est la question que je me suis posée. Mais de telles personnes, est-ce qu'ils iront en enfer? Est-ce qu'ils iront dans les temps de feu éternellement? Bien-aimé, bien sûr que la réponse est oui s'ils ne croient pas en Jésus. C'est oui. Mais il y avait une voix dans mon cœur qui a dit, comme une pensée qui est venue, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est comme si je me plaignais au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour aller en enfer? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est des gens qui vivent comme tout le monde, qui se lèvent le matin, qui vont au travail, qui nourrissent leurs enfants. Bon, de temps à autre, ils injurient quelqu'un. Il boude, oui, il s'énerve. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Bien-aimés, beaucoup seront perdus par négligence. Vraiment par négligence. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Pensons à ceux qui se perdent. Eux, ils sont négligents, mais que nous, les enfants de lumière, nous ne soyons pas négligents pour les sauver. On risque, comme ce qui m'est arrivé hier, de dire, mais tiens, mais est-ce qu'ils ne sont pas plus mauvais que moi? Mais, bien-aimés, est-ce qu'on est sauvé parce qu'on n'est pas plus mauvais que quelqu'un? On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus. Et cet homme riche, certains croiraient peut-être, comme il a dit, qu'on envoie prêcher à ses frères que lui, on ne lui avait pas prêché, on ne lui avait pas parlé de l'enfer. Il y a ce côté-là peut-être qui peut exister, c'est possible. Mais je pense que le fait qu'il réclame que ce soit quelqu'un qui ressuscite, qui vienne d'entre les morts pour aller prêcher, je crois qu'il voulait que la prédication soit marquante. Quelque chose qui réveille, quelque chose qui est fort. Il voulait quelque chose de fort. En quelque sorte, lui considérait que lui, on ne lui avait pas prêché fortement. On lui avait parlé faiblement. Il fallait quelque chose de fort. Et Abraham lui dit, mais non, juste la parole suffit. Si la parole n'arrive pas à te convaincre que tu es dans l'erreur, ce n'est pas un mort qui ressuscite qui va le faire. Il va t'impressionner un temps, mais tu retrouveras toujours la routine. Ce monsieur était en enfer par négligence. Peut-être que s'il avait pris au sérieux les choses, il serait au ciel. Mais il a fait comme j'ai eu la pensée. Il s'est dit, mais bon, je ne vois pas ce que je fais de mal. Je gagne ma vie en travaillant à la sueur de mon front. Je ne vole personne. Je crois que l'erreur qu'a commise cet homme, c'est de se dire, c'est vrai que peut-être l'enfer existe, le paradis existe, mais moi, je ne suis pas plus mauvais que quelqu'un d'autre. Je ne vois pas pourquoi j'irai en enfer. C'est la grande erreur qu'il a commise. Il a été son juge. Or, nous serons jugés par quelqu'un d'autre. Et c'est la grande erreur que beaucoup d'humains commettent, c'est qu'ils sont leurs propres juges. On n'a jamais vu un match de football où l'attaquant d'une équipe était l'arbitre. C'est toujours quelqu'un de neutre qui est l'arbitre. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà regardé les matchs, il y a des buts qui ont été validés alors qu'ils n'étaient pas vrais. Mais tout simplement parce que l'arbitre n'est pas celui qui jouait. L'arbitre, c'est lui qui a la décision. Et même si ceux qui jouaient ont vu que c'était faux, comme c'est lui qui a la décision, c'est sa décision qui a pris le dessus. Bien-aimés, nous ne serons pas jugés par nous-mêmes, malgré nos pensées de compassion en disant, mais quand je regardais, je voyais leur visage de joie, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais oui, ce n'est pas moi qui va les juger, c'est Dieu qui va les juger. Donc nous devons nous intéresser à comment Dieu va juger les gens et non pas comment nous jugeons les gens. C'est important, bien-aimés. Nous devons sortir de la négligence par rapport à ceux qui se perdent. Ils iront en enfer, c'est une réalité, que personne ne vous trompe. Cet homme riche s'est retrouvé en enfer parce qu'il devait se dire qu'il n'y avait pas de mal à être riche. C'est vrai, il n'y a pas de mal à être riche. Il devait se dire qu'il avait le droit de mener sa vie comme il voulait. Finalement, pourquoi il se retrouve en enfer? Parce qu'il a mené sa vie comme il voulait. Il ne s'est pas intéressé au Créateur pour savoir ce que le Créateur attendait de lui. Il avait oublié qu'il ne s'était pas créé tout seul et qu'il s'était retrouvé sur la terre. Quelqu'un l'avait déposé sur la terre et que ce quelqu'un-là lui demandera des comptes. Il avait négligé ce côté-là. Il s'est fait son propre juge. Et beaucoup de chrétiens sont devenus des juges, des faux juges, croyant même aimer les gens plus que Dieu lui-même. Non, Dieu aime beaucoup les gens. Il est écrit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus. » Quelle preuve nous voulons encore de l'amour de Dieu? Son Fils est mort à la croix, crucifié, humilié pour sauver les humains. Quand nous serons le jour du jugement, quand on dira « Mais Seigneur, est-ce que ton jugement n'est pas grave ?» Il va dire « Mais mon jugement est grave parce que mon jugement a condamné mon propre Fils. » Mon propre Fils a pris votre place. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse de plus? Il fallait croire en lui. Le salut est si facile, bien-aimé. C'est vrai, le salut est très facile. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit que dans Luc 19:10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nulle part dans la Bible, c'est écrit, venez à moi, vous tous les parfaits, vous tous les beaux et les forts. C'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Même celui qui a l'impression qu'il n'arrive pas à s'en sortir du péché, viens à Jésus. Il te demande simplement de croire qu'il peut te sauver, il peut te libérer. Mais c'est la négligence, c'est le faux raisonnement qui trompe beaucoup de gens. Et ce faux raisonnement cache la rébellion vis-à-vis de Dieu. Ils se disent, bon, moi je pense que, mais ce n'est pas toi qui va te juger. Quoi que tu penses, ça n'a pas de poids parce que ce n'est pas toi le juge. Comme je disais, dans mon récent voyage, là où j'intervenais, mais ce n'est pas parce que ton avocat t'a dit, monsieur, vous allez vous en sortir le jour du procès, que tu vas t'en sortir. Ton avocat peut monter sa défense comme il veut. Il te dit, je te soutiens. Et le jour du procès, ce n'est pas lui qui aura les derniers mots, c'est le juge qui aura les derniers mots. Et le juge va utiliser le code pénal, le code civil, pour donner sa position. Et le jour du jugement dernier, bien-aimé, c'est Dieu qui aura les derniers mots. Et il va utiliser la Bible, sa parole, pour donner sa position. Ce n'est pas les humains qui auront le dernier mot. Ne nous laissons pas avoir par nos jugements qui sont conduits par une logique humaine de dire, tiens, mais bon, ils sont gentils. Il y a des chrétiens même qui disent, mais il y a des païens qui sont plus bons que des chrétiens. Bien-aimés, ces païens-là iront en enfer, malheureusement. Parce qu'on ne va pas au ciel parce qu'on est plus bon qu'un chrétien. On va au ciel parce que Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés, nous a lavé de son sang et nous pouvons aller au ciel. Que personne ne vous trompe. Si vous ne voulez pas pleurer ces jours-là, pleurez maintenant dans la prière et dans le travail d'évangélisation. C'est maintenant que nous devons travailler et pleurer. N'attendons pas de nous retrouver au ciel encore en pleurant de voir que certains amis sont en enfer. N'attendons pas. Ne nous laissons pas avoir par nos logiques qui comparons. Vous savez, dans le monde, les infractions à la loi sont catégorisées en général en trois formes. Il y a ce qu'on appelle, premièrement, les contraventions. C'est-à-dire, tu fais un dépassement de vitesse, tu te gares mal, tu reçois une contravention. Tu fraudes au métro, c'est une contravention. Donc, ça ne va jamais t'amener en prison. Donc, on t'impose de payer quelque chose, un point, c'est tout. Ou bien, il y a des sanctions dans le civil, du genre retrait de permis, quelque chose de ce genre-là. Et il y a ce qu'on appelle des délits. Des délits, c'est le niveau supérieur. Donc quand tu as cambriolé quelque part, c'est un délit. quand tu as volé quelque chose, c'est un délit. Et ça peut entraîner des peines de prison, mais minimales, faibles. Et il y a ce qu'on appelle un crime. C'est-à-dire quand tu as été complice d'un meurtre, ou toi-même tu as fait le meurtre, et ça entraîne des peines de prison maximales. Vous voyez, le monde quantifie le mal, mais Dieu ne quantifie pas le mal. Il est écrit dans Jacques 2:10 ceci. Il faut qu'on connaisse comment il va juger. Jacques 2:10. Parce que si on connaît comment il va juger, nous serons sérieux par rapport à ceux qui se perdent. Jacques 2:10. Il est écrit ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Quiconque pêche sur un seul commandement, alors qu'il accomplit tous les autres, est considéré comme ayant péché sur tous les autres. Voilà comment Dieu juge. Il faut qu'on connaisse le juge. Quand on est entré dans le cœur de dire, mais tiens, mon cousin là, il lui manque que de venir à l'église, mais vraiment, il se comporte comme un bon chrétien, quoi. Voilà, c'est... Et quelque part, on n'évangélise pas la personne, on a comme une conception que, bon, Dieu le comprendra, bien aimé, on se trompe. Ces gens-là iront en enfer, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne soyons pas négligents par rapport à ceux qui se perdent. Les efforts dans la prière, c'est maintenant. La prédication, c'est maintenant, bien-aimés. N'imaginons pas que Dieu va changer sa façon de juger. Il est écrit qu'en lui, il n'y a point de changement, ni d'ombre de variation. Il considère que quelqu'un qui a le mal, il a le mal totalement. Il ne considère jamais qu'on a le mal un peu. Comme nous, dans notre logique, on se dit, mais tiens, c'est un délit, c'est une contravention. Oh, c'est pas grave, ce n'est qu'une contravention. Voilà, c'est pas grave, ce n'est qu'un délit. Ça ne te coûtera pas plus d'un an de prison. Mais quand c'est un crime, ah, c'est grave, c'est un crime. Mais pour Dieu, que ce soit le délit, que ce soit la contravention, que ce soit le crime, c'est au même niveau. Comprenons à qui nous avons affaire. C'est lui qui va juger. C'est triste de se rendre compte que beaucoup de gens iront dans le feu éternel juste par négligence. Vous vous imaginez, ce riche-là, c'était pas un bandit, c'était pas un mafieux qui avait des hommes de main qui tuaient pour piller. Certainement, c'était juste quelqu'un qui avait travaillé et qui s'était enrichi. Mais la Bible le dit clairement dans Luc 16, au verset 19. Il menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Et dans la suite, on dit qu'il n'aidait pas les pauvres, le pauvre qui était devant chez lui. Il ne lui donnait même pas les miettes qui tombaient de sa table. Donc on voit deux choses. Cet homme faisait ce qu'il voulait de sa vie. Et deuxièmement, il ne faisait pas le bien. Mais on peut se dire, mais oui, mais... Est-ce qu'on est obligé de faire le bien, de donner ses biens aux autres? Mais c'est là la question. Il est écrit encore dans Jacques, c'est toujours Jacques. Hein? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Cet homme laissait un pauvre mourir. Et lui, il préférait manger. Dans l'égoïsme, aujourd'hui, nous disons, mais c'est dans la logique occidentale, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont ses biens à lui. Voilà, c'est à lui. Mais Dieu n'est pas dans la logique occidentale. Dieu considère que c'est lui qui a tout fait. Et que quand il te permet d'avoir beaucoup, il faudrait penser aux autres. C'est ça là, le problème. Cet homme, je crois, est entré dans le jugement juste par négligence, juste parce qu'il pensait que c'est bien peut-être que l'enfer existe, mais ce n'est pas pour moi. Je ne vois pas quel mal je fais. Et c'est là la grande erreur. Beaucoup d'entre nous-mêmes disent, je ne vois pas quel mal je fais. Ce n'est pas toi qui vas te juger. Même Paul dit ceci, je n'ai rien à me reprocher. Mais ça ne veut pas dire que je suis irréprochable, parce que Dieu le juste juge me jugera. Paul était conscient, c'est vrai, il y a des instants où tu peux être là, calme, tu te dis, mais c'est vrai, bon, je ne fais aucun mal, je ne me reproche rien. Mais Paul reconnaissait que ce ne serait pas lui qui aura le dernier mot. C'est quand même Dieu qui est juge. Maintenant, Dieu nous a donné le moyen de ne pas passer en jugement. C'est écrit dans Jean 5, 24. Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui vient à moi et qui croit en celui qui m'a envoyé ne passe pas en jugement. Il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur nous a donné la clé du salut, c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un cadeau facile. Il suffit de tendre la main et de dire, tiens, je vais croire en Jésus et ce qu'il a fait comme œuvre à la croix va être à mon bénéfice. Il a payé ma dette par sa mort à la croix. À partir d'aujourd'hui, je vais mourir par rapport à mon ancienne vie et vivre la vie que Christ va me communiquer. C'est ça qui nous amène au ciel. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que toi, l'ancien toi n'existe plus. C'est maintenant Christ qui vit en toi. Tu es non seulement pardonné pour tes péchés passés, tes péchés présents, et quand tu pécheras dans l'avenir, il te suffira de demander pardon, de te repentir. Dieu encore effacera tes péchés par le sang de Christ et te communiquera une nouvelle marche toujours avec lui. C'est ça qui sauve. Parce que tout homme est mauvais, tout homme est pécheur. Donc ça ne sera jamais le bon comportement de quelqu'un qui le sauvera. Ça sera la foi de cette personne en l'œuvre de Christ qui sauvera chaque humain. Donc arrêtons avec nos raisonnements qui nous font croire que le monsieur qui donne des biens au resto du cœur, qui ne triche pas au travail, dans ses impôts, qui sourit à la rue, ce monsieur-là, il ne fait pas de mal. Mais pourquoi irait-il en enfer? Mais bien-aimé, la Bible est claire dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas le mal que fait cet homme-là qui ne fait pas le mal. Ce n'est pas toi qui vas juger cet homme. C'est Dieu qui va juger les hommes. Arrêtons, bien-aimés, avec la négligence vis-à-vis du péché, la négligence vis-à-vis des perdus, des gens qui se perdent. Ne soyons pas négligents vis-à-vis d'eux. Nous avons une grande responsabilité de leur dire l'enfer existe, ça existe. C'est Jésus qui parle de l'enfer. On aurait dit, ah, peut-être c'est un prophète qui a parlé. Non, c'est Jésus lui-même qui est mort pour nous à la croix. Il dit, si je suis mort pour vous à la croix, c'est pour vous éviter l'enfer. C'est une réalité, bien-aimé. Ne nous laissons pas voir en disant, mais tiens, mes cousins, mon fils, ma fille, il va, elle va dans telle église. Non, bien-aimé, disons à cette personne-là que c'est la vraie conversion qui compte. Ce n'est pas aller dans une église qui compte, c'est est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es mort avec lui et ressuscité avec lui? C'est la grande question, bien-aimé. Beaucoup se retrouveront en enfer par négligence. Par négligence. Ce n'est même pas parce qu'ils font partie de la mafia ou ils sont partis voir un féticheur. Mais juste par négligence, ils ont négligé Jésus. Ils ont négligé le fait qu'il fallait mourir et recevoir la vie de Christ. Juste par négligence. Ils ont sous-estimé le jugement de Dieu, alors que le jugement de Dieu a conduit son Fils à mourir à la croix. Ne sous-estimons pas cela, bien-aimés. Ne sous-estimons pas cela. Moi, je parle parfois des frères. Ils sont juste fatigués parce qu'ils ont prêché 4 mois à quelqu'un et la personne n'a pas changé totalement. Et le frère dit, ah, pasteur, je suis fatigué. Il me promet ceci, elle me promet cela, mais ça ne change pas. Pourquoi la personne est en colère et fatiguée? Parce qu'il a fait 4 mois d'efforts. Et la personne pour qui les efforts ont été déployés n'a pas changé, n'a pas pris de décision. Alors imaginez la colère de Dieu lorsqu'il donne son fils mourir à ta place à la croix. Il se dit, tiens, tu vas prendre conscience que le péché est grave. Parce que si le péché conduit Dieu à sacrifier son propre fils, c'est qu'il est grave le péché. C'est que le mal est grave aux yeux de Dieu. Non, toi tu en profites encore pour dire, ah bon, nous sommes sous la grâce. Dieu est bon. Mais oui, il est bon, c'est vrai. Mais il est juste. Et sa justice a jugé le péché par la crucifixion de son propre fils. Son fils a pris notre place. Bien aimé, imaginez que vous êtes emprisonné pour 30 ans et votre jumeau, par des manœuvres quelconques, prend votre place et vous vous sortez. Et lui va faire 30 ans votre place. Et il apprend de sa cellule que vous avez recommencé à braquer les gens, à voler, à tuer encore. Mais quelle sera sa réaction? Quelle sera sa réaction vis-à-vis de vous? Mais dira, mais vous êtes, mais il est fou. J'ai pris sa place en prison. Et lui, il sort pour faire ce qu'il fait là encore, pour retourner. Mais c'est la folie. Vous imaginez la colère de Dieu quand il a sacrifié son propre fils. Et que par conséquent, les hommes continuent à mener la même vie qu'avant. Et je vous dis que beaucoup qui viennent dans les églises iront en enfer par distraction, par négligence. Parce qu'ils iront négliger la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Matthieu 7. Matthieu 7. Parce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Donc dans ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, bien-aimé. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi !» Vous qui commettez l'iniquité, ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimé. Et l'autre qui ne met pas en pratique sera semblable à une maison bâtie sur le sable. Le jour du jugement, cette maison tombera. Beaucoup iront en enfer par négligence. Pas parce qu'ils l'ont voulu, mais par négligence. Parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu. Parce qu'ils ont négligé la volonté de Dieu. C'est une réalité, frères et sœurs. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il demande simplement de nous humilier, de reconnaître nos torts et de les laisser nous aider. D'abord en nous sauvant et deuxièmement en nous aidant chaque jour à vivre dans sa volonté à travers sa parole. Dieu ne demande à personne d'être parfait par elle-même. Il nous demande de venir à lui pour qu'il nous aide. Alors, si vous refusez l'aide, qu'est-ce qu'il peut faire? Jean 8, 24. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jean 8, 24? Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous ne croyez pas que moi je suis Dieu, si vous ne croyez pas en ce que moi je suis venu faire, vous mourrez dans vos péchés. Le Seigneur nous donne un grand enseignement qui est en même temps la réponse à mon inquiétude d'hier. Mais pourquoi ces gens iront-ils en enfer? Le Seigneur nous donne la réponse. C'est que tout humain a une substance, a un virus qu'on appelle le péché. Et pour en avoir la certitude, hein, il suffit de voir ses propres pensées qu'on peut avoir dans le cœur, dans la tête, hein, les pensées de colère, de haine, de convoitise quelconque. Pour avoir, sans savoir, avoir le cœur net là-dessus, il suffit de réaliser que tout homme dépérit, se détruit avec le temps et finit par mourir. C'est la preuve que l'homme a quelque chose de négatif en lui. Et c'est le péché, cette chose négative. Puisque ça finit par tuer tout homme. Donc ça dégénère l'homme jusqu'à l'amener à la mort. Certains, quand ils vont dire, mais non, mais, ah, mais il est tellement gentil, il est bon, je ne vois pas. Est-ce qu'il s'est obligé seulement de croire en Jésus? Et vous savez, il y a des faux pasteurs aux États-Unis maintenant qui disent que Jésus n'est pas le seul chemin, on peut passer par autre chemin. Non, bien-aimé, seul Jésus est mort à la croix pour l'humanité. Personne d'autre ne l'a fait. Et cette substance qu'on appelle le péché tue tout le monde. On finit tous par mourir. C'est la preuve que tous nous l'avons. Et Jésus dit, la solution par rapport à cette affaire, hein, parce que non seulement le péché te tue physiquement, mais le péché t'entraînera dans le feu éternel parce que Dieu ne cohabite pas avec le mal. Et le Seigneur nous dit, la solution, c'est lui. Il a pris nos péchés à la croix. Ensuite, il nous propose de croire en cela et de recevoir une vie nouvelle. Nous ne pouvons recevoir la vie nouvelle que si nous acceptons que l'ancienne vie n'était pas bonne. Si nous acceptons que l'ancienne vie nous conduisait à notre perte, c'est comme ça qu'on reçoit la vie nouvelle. Donc il faut accepter que la logique humaine, la logique charnelle était mauvaise. Prenons la nouvelle logique qui est inscrite de la parole, dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la logique du ciel, la logique de l'amour et de la pureté. Quand nous embrassons cette logique, le Seigneur nous transforme, il fait de nous une créature nouvelle. Et c'est ainsi, bien-aimés, que nous aimerons que les choses du ciel. Nous serons toujours tentés, parce que nous avons notre corps de chair, nous serons toujours tentés. Parfois nous tomberons, mais la différence c'est que nous avons cru en Jésus et nous avons confié notre vie en lui. À chaque fois que nous allons nous repentir, dire Seigneur, oh là là, l'orgueil m'était revenu, je me suis encore éloigné de toi, pardonne-moi, change-moi. Et à chaque fois, il va le faire parce qu'on a fait une alliance, un contrat avec lui et il va honorer toujours son contrat. C'est pourquoi il est dit, ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu va devenir infidèle, Dieu reste fidèle. Mais bien-aimés, ne soyons pas distraits ni négligents par rapport à cette question du salut. Seuls les gens qui croient en Jésus, seuls les gens qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, seuls ces gens-là iront au ciel. Vous avez beau côtoyer des religieux qui semblent bien se comporter, faire du bien aux pauvres, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. C'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par grâce, par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un te fait du bien et que tu es peut-être pasteur que cet homme-là est pardonné de ses péchés. Non. Cet homme est pardonné lorsqu'il reconnaît ses torts, il se repent, il rejette l'ancienne vie pour saisir la nouvelle que Jésus propose. C'est comme ça que cet homme est pardonné. Le Seigneur va même loin, il dit, mais il y a des gens même qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité les morts. Ce n'est pas ça qui qualifie, c'est la volonté de mon Père. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu as laissé le Christ conduire ta vie? C'est ça la question. Ou tu as été seulement chrétien d'étiquette pour avoir une sorte... C'est comme si avec Dieu, tu prends Dieu comme une sorte de protection. Que si tu meurs, tu vas au paradis, mais entre-temps sur la terre, tu fais comme les gens du monde. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est soit on donne toute sa vie, soit on donne rien du tout. C'est ça, bien-aimé. Rappelons-nous l'histoire du riche. Beaucoup iront en enfer par négligence et par distraction. Pas forcément parce qu'ils ont planifié le mal, mais c'est parce qu'ils ont été négligents. Voilà la réponse. l'homme a le péché en lui, et si Jésus n'ôte pas ça, s'il ne se laisse pas purifier par Jésus, ce péché-là l'amènera dans l'enfer. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 8, 24, « Vous mourrez dans vos péchés. » Donc vos péchés seront en vous. Alors que si vous croyez en moi, vos péchés ne seront plus en vous. Je les aurai pris. Mais si vous ne vous croyez pas en moi, vos péchés demeurent en vous. Et tant qu'ils demeurent en vous, ils vous conduiront en enfer. Alors que celui qui vient en Christ, ses péchés sont pardonnés et effacés. Donc quand il meurt sans le péché. C'est pourquoi ils héritent de l'éternité au paradis. Jésus a dit au voleur qui était à côté de lui et qui s'était humilié, qui avait reconnu que son ancienne vie était mauvaise et que Jésus était le roi des rois, le seigneur des seigneurs et qu'il reviendra dans son règne. Jésus lui avait dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé, c'est vrai que le jugement qui amène les gens en enfer, ça paraît dur, je reconnais que c'est dur. C'est pour ça que j'étais justement déstabilisé hier. C'est dur, mais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu est autant grande. Puisque cet homme-là a été voleur toute sa vie, mais il a été sauvé en une minute, parce qu'il a reconnu son tort. Alors, mais ne prenons pas à la légère cet amour. Pour dire, mais tiens, bon, Dieu comprendra mon cousin, il comprendra mon frère, il comprendra mon ami, il comprendra mon fils. Moi, j'ai rencontré mon père lors de mon voyage, j'ai dit, papa, ce qui m'importe, c'est que tu ailles au ciel. Parce qu'on a discuté des histoires, d'héritage, tout ça, moi, j'ai dit, mais non, tout ça, c'est quoi les héritages? Michael Jackson est mort. Il avait des maisons. Il avait le succès. Il avait l'argent. Il louait la maison à 150 000 dollars le mois. Donc le montant que toi tu peux acheter une maison, tu vois, lui il louait la maison avec ce montant-là, mensuellement. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Je dis, papa, ce n'est pas ces histoires-là de maisons. Fais de ces maisons-là ce que tu veux. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu ailles au ciel. Je regrette que tu sois mon père, mais que tu ne bénéficies pas de ce que je fais dans le Seigneur. C'est tout, toute ma souffrance. L'argent, c'est quoi? Ce jeune homme riche, cet homme riche, qu'est-ce que l'argent pouvait lui faire encore? Il brûlait, il a demandé l'eau, il ne pouvait même pas avoir l'eau. Bien-aimé, la beauté du corps, c'est quoi? Un jour, on meurt. Tout ça passe, bien-aimé. Ne soyons pas distraits et négligents. Ouvrons les yeux par rapport à ceux qui se perdent. Et si nous en faisons partie, ouvrons les yeux par rapport à nous-mêmes. Pourquoi se retrouver, je dirais entre guillemets, bêtement en enfer? C'est ce qui s'est passé pour ce riche. Il s'est dit, oh, mais si je savais. Si je savais, mais tu savais, mais tu as négligé. Alors il s'est dit, je crois que tous les humains doivent avoir la même logique que moi. C'est ce qu'il s'est dit. Je crois que mes frères aussi refuseront de croire. Parce que comme moi j'ai refusé, eux doivent avoir la même logique. Et c'est vrai. Il s'est dit, mais mes frères vont négliger aussi. Qu'on leur envoie quelqu'un qui sort de la mort. Comme ça, ils auront peur, ils se rendront compte que c'est des réalités. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu va continuer à parler toujours avec sa parole simple. Soit on s'humilie, on reconnaît que le fait que les gens meurent. C'est pourquoi la mort est un grand enseignement. La mort doit interpeller. Vous ne voyez pas comment on souffre lorsque quelqu'un meurt. On souffre beaucoup. On se sent comme déchiré. C'est un enseignement pour nous dire à nous tous, attention, ces choses-là sont vraies. L'enfer, c'est vrai. Regardez comment vous souffrez de la mort de quelqu'un. Mais pourquoi il est mort? Parce qu'on a une substance qu'on appelle péché qui tue. Voilà la réponse de Dieu. La mort est la preuve que le péché est grave. Alors prenons au sérieux les choses et disons aux gens la vérité. N'usons pas de complaisance envers certains païens sous prétexte qu'ils semblent être bons comme plus que les chrétiens. Ce n'est pas la bonté d'un homme qui sauve. C'est le problème du péché qui détruit les gens, qui les amène en enfer. Et la solution, il n'y a que Jésus-Christ, ce n'est pas les bonnes œuvres. C'est ça, bien-aimé. Quitte à ce qu'on soit rejeté, mais nous devons dire la vérité. Bien-aimé, est-ce que tu peux comparer le rejet que tu peux subir sur terre? Et le fait que quelqu'un brûle éternellement en enfer. Est-ce que tu peux comparer les mêmes douleurs, ces deux douleurs-là? Aujourd'hui, toi, tu as peur de dire la vérité parce que tu vas gêner tes parents, tu vas gêner tes cousins, tu vas gêner la famille. Mais maintenant, quand cette famille-là, ces gens-là, vont brûler en enfer, tu compares cette douleur-là. La douleur que toi, tu peux ressentir aujourd'hui d'être rejeté et la douleur qu'eux, ils vont ressentir de ne jamais être sauvés éternellement, de brûler tout le temps. Est-ce que tu compares les deux? Si tu compares les deux, tu vas devenir sérieux. Tu vas préférer souffrir un peu sur la terre. Comme Jésus a dit, et que Abraham a dit à cet homme, il a dit, mais toi sur la terre, tu menais joyeuse et brillante vie, mais lui, il a connu la souffrance. Voilà, tu vas préférer souffrir à cause de la vérité, mais être sûr d'avoir dit la chose qu'il faut pour amener quelqu'un au ciel, de sorte qu'un jour il s'en souvienne et soit sauvé peut-être à la fin de sa vie. Comme c'est dit, celui quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il faut dire la chose qu'il faut, parce que ça peut rester dans la tête qu'un jour la personne s'en souvienne. Mais moi, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, mais toi tu es même plus bon que moi, donc en quelque sorte, entre guillemets, Dieu est plus dur envers moi, toi tu es plus bon que, tu es bon envers moi, tu viens de me donner une somme d'argent. Donc, sous-entendu, alors que Dieu me délaisse. J'ai dit, moi je n'accepterai jamais de paraître plus bon que Dieu. C'est pourquoi quand je sens que quelqu'un commence à me prendre plus bon que Dieu, je vais lui dire une vérité qui va changer ça. Je préfère que la personne ne m'aime plus, mais je ne veux pas que la personne se dise, je m'entends bien avec le pasteur, même si je ne m'entends pas bien avec Dieu. Ce n'est pas grave, jamais. Ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. C'est Dieu qui te jugera. C'est Dieu qui te sauvera. Entends-toi bien avec lui. Et nous avons un code pour savoir si on est bien avec lui, c'est la Bible. Fais en sorte que tu sois conforme à la Bible dans ton comportement. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas parce que le pasteur t'aime beaucoup, ce n'est pas parce qu'il te favorise ou quoi que ce soit, non. Nous serons jugés pas par un pasteur, nous serons jugés par celui qui sera assis sur le trône blanc, l'agneau de Dieu, qui a été homme comme nous. Il connaît nos faiblesses et c'est pourquoi il nous a proposé son aide. Et quand on refuse cette aide, bien-aimé, on est perdu. Ne négligeons pas les perdus, ceux qui se perdent. Pensons à ceux qui se perdent, c'est une réalité. Il est écrit quoi dans 2 Corinthiens 4? 2 Corinthiens 4. À partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Donc les gens qui se perdent sont voilés. C'est ce qui met. Donc c'est le raisonnement. Celui qui communique le raisonnement que j'ai failli avoir hier en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est le même qui voile toute l'humanité. Et le riche était conscient qu'il a été voilé et que ses frères aussi sont voilés. Mais la solution qu'il a proposée était mauvaise. C'était que quelqu'un sorte d'entre les morts. Abraham lui a dit, mais non, mais ils ont les Écritures. Les Écritures peuvent dévoiler, peuvent déchirer le voile et apporter la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Nous devons annoncer la parole dans la vérité. Nous ne devons pas faire les choses d'une manière voilée. Disons la vérité qui sort du cœur par le Saint-Esprit conformément à la Bible. Ne calculons pas ce qu'on va dire aux gens, mais laissons le cœur parler. Je n'ai pas dit qu'on doit à tout moment parler de l'enfer aux gens. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit tout simplement, ne calculons pas. Laissons le Saint-Esprit parler en nous et dire ce qu'il a à dire à chacun pour son changement. Et s'il veut dire des choses dures, laissons-le faire, parce que c'est lui seul qui sait ce qu'il doit dire pour toucher le cœur de quelqu'un, pour sauver cette personne-là. L'évangile est voilé, c'est vrai. Il y a des gens, quand on leur parle, on a l'impression de parler à un mur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler. Ce qu'on dit là va briser le mur et la parole finira par atteindre le cœur. Mais on doit dire la vérité. On ne doit surtout pas sous-estimer le jugement de Dieu. Pensons à ceux qui se perdent, bien-aimés. Levons-nous et mettons-nous dans une vie chrétienne à 100%. Parce que ce n'est pas seulement... Dieu ne nous utilisera pas seulement en parlant. Il va nous utiliser par notre propre transformation. Les gens ont besoin de voir des vrais chrétiens pour savoir qu'est-ce que Dieu vraiment peut faire dans leur vie. Mais quand ils observent des chrétiens qui ne semblent pas vraiment transformés, ils ne ressentent pas vraiment le besoin de se laisser transformer par Dieu parce qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait chez l'autre. Levons-nous dans une vie chrétienne à 100%. Il n'y a qu'une vie chrétienne à 100% que Dieu peut utiliser pour toucher réellement les gens. Le Seigneur a donné toute sa vie jusqu'à la mort à la croix. C'est ce qui a sauvé l'humanité. Et il nous demandera la même chose. Si nous voulons que les gens soient sauvés, nous serons amenés à donner notre vie. À donner notre vie. Ça veut dire quoi? Les incompréhensions. Ça veut dire quoi? Tu passeras pour être le rabat-joie. Dès que tu parles, la joie des gens s'en va parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Ça veut dire quoi? Tu auras à vivre des privations. Il y a des moments où il y aura un gâteau à partager, mais tu préféreras te priver de ta part pour donner à quelqu'un d'autre parce que la personne a besoin de ressentir l'amour, de réaliser l'amour de Dieu, parce que la personne a besoin d'aide. Tu auras des privations dans ta vie, bien-aimé, parce que tu veux aider, tu veux sauver, bien-aimé. C'est ça la réalité. En quelque sorte, tu mourras afin que les autres soient sauvés. C'est ce que notre frère Paul explique dans 2 Corinthiens 4. Il dit « La mort agit en nous et la vie agit en vous. » Donc pendant que nous mourons, nous qui annonçons la parole, par les souffrances liées à notre métier d'annonceur de la parole, vous recevez la vie de Dieu. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. Et nous ne devons pas, bien-aimé, nous économiser en ce qui concerne ce domaine-là, de sauver les perdus. C'est parce que l'enfer, c'est grave, c'est dur, et c'est une réalité. Ne nous laissons pas dompter, mater par la bonté apparente des gens qui ne croient pas en Jésus. Il y a certaines personnes qui ne croient pas en Jésus, mais qui semblent apparemment bons, apparemment gentils. Ce n'est pas ça qui les sauvera. Si nous les côtoyons régulièrement, c'est le moment de se réveiller pour commencer à leur dire la vérité. Arrêtons de penser que Dieu, bon, comprendra qu'ils sont quand même bons. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le jugement se fera par la parole. Si quelqu'un accomplit toute la loi et qu'il néglige une seule loi, il est responsable, il est coupable de tous, de tous les commandements. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est confier sa vie à Jésus-Christ. Réveillons-nous, bien-aimés, dans une vie chrétienne à 100%, où tu es livré à Dieu. Livré à Dieu dans les prières, livré à Dieu dans l'humilité, livré à Dieu dans l'unité entre les enfants de Dieu. Vous savez, les divisions qu'il y a parfois dans les églises, c'est lié au fait qu'il y en a qui ne sont plus là pour sauver les âmes, mais ils sont là pour défendre leurs intérêts. Je crois que si on était là tous pour sauver les âmes, on n'aura même pas le temps de penser à soi-même. Paul dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Actes des Apôtres 24. Actes des Apôtres 20-24. Je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la mission que Dieu m'a confiée. Paul, il vivait pour accomplir la mission de sauver les âmes. Il dit, je me suis fait tout à tous, avec les Juifs comme avec les Juifs, avec les Grecs comme avec les Grecs, de sorte d'en gagner quelques-uns s'il le fallait. Même si je pouvais gagner deux ou trois, ma vie sera heureuse. Il vivait pour sauver les perdus. Et quand on dit les perdus, c'est tous les perdus. Il ne s'agit pas seulement des membres de ta famille, c'est tous les perdus. Il vivait pour ça. Vous imaginez quand j'ai vu les photos de ces gens qui faisaient le téléthon, j'ai dit, mais oulala, ils semblent joyeux. Ils avaient une danse avec une jambe, ils faisaient une danse avec une jambe en haut et l'autre en bas, je ne connais pas la danse. Mais je dis, mais malgré toute cette danse joyeuse, ils iront en enfer si quelqu'un ne leur dit pas la vérité et qu'ils ne se convertissent pas. Ils étaient joyeux. Le riche menait joyeuse et brillante vie. On a rencontré quelqu'un pendant mon voyage qui disait, mais si Dieu n'était pas avec moi, est-ce que j'aurais atteint 70 ans? Nous on a dit, oh mon vieux, si tu as atteint 70 ans, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu meurs tôt pour que tu aies un enfer. Il t'a retenu pour écouter la vérité pour que tu ailles au ciel. Et ça, vous savez, beaucoup de païens sont dans des fausses logiques comme ça. Oh, moi, Dieu m'a toujours protégé. Hein. J'ai eu beaucoup d'accidents, mais je ne suis pas mort. Il y a d'autres que... Dieu m'a toujours protégé, mais Dieu t'a protégé pour que tu te convertisses. Ce n'est pas parce que tu étais bon. Il t'a préservé pour que tu te convertisses. Et nous sommes dans ces raisonnements-là. Ah, vraiment, Dieu l'a toujours protégé. Dieu est avec lui. Non, Dieu le maintient en vie. Parce que s'il mourait à ce moment-là, il allait en enfer. Il le maintient en vie. Il est écrit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Bien-aimé. Et certains jeunes pensent que les histoires du ciel et du paradis concernent les adultes. On se trompe, bien-aimé, abondamment. On se trompe. À l'âge de 12 ans, Jésus-Christ parlait déjà de la parole de Dieu. Jérémie n'était qu'un enfant quand il a été utilisé pour prophétiser. C'est autant sérieux pour les jeunes que pour les adultes. C'est une réalité. Je vous répète, beaucoup iront en enfer par négligence et par distraction. Et ils vont dire, si je savais. Ils vont dire, mais les prédicateurs, ils auraient dû cracher le feu en même temps en parlant. Là, on allait prendre ça au sérieux, non. Dieu parle toujours tranquillement parce qu'il veut toucher l'homme humble. L'homme qui s'humilie, qui reconnaît, tiens, après tout, nous mourrons tous. Bien-aimé, moi, j'étais païen, mais la mort me dérangeait. Il y a des moments, si tu manges un gâteau, tu veux que la vie ne s'arrête pas, quoi. Tu sois toujours avec ce gâteau-là. Mais à un moment, ton ventre est gonflé, tu es rassasié, tu n'as même plus envie de manger. C'est ça la vie, quoi. Il y a des après-midi qui sont super, avec un petit vent. Sinon, surtout on est dans le tropique, un vent qu'on appelle l'alizé. Donc vers 16h, à l'ombre d'un arbre, il y a un petit vent là, l'alizé qui souffle. Là. Tu as l'impression que ça reste seulement comme ça, mais non. La nuit va venir tout gâcher. Et puis, il faut dormir, il faut aller travailler. C'est ça la vie. Telle que se fait sur terre est là pour nous interpeller que sur terre, ce n'est pas la solution. La solution est ailleurs. La solution est ailleurs. Il y a des moments en classe. Ah, on fait la proclamation, tu es le premier de classe. Mais au deuxième trimestre, tu es le quatrième. La vie, c'est comme ça. Un jour, ton équipe gagne le mondial. Et l'autre jour, elle perd. La vie n'est pas sécurisante. Que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, nous devons nous rendre compte de tout cela. Et arrêter avec la vie ancienne. Arrêter avec la perdition. Ne pas se faire des fausses idées en condamnant les autres dans le cœur, en se comparant aux autres, en disant, mais oui, mais si lui peut aller au ciel... Et moi donc, non, on sera jugé individuellement par rapport à la parole de Dieu. Ma prédication, c'est pensons à ceux qui se perdent. en commençant peut-être par nous-mêmes, si on se perd. Pensons à nous. Pensons à nous. Et si on n'est pas de ceux qui, on ne fait pas partie de ceux qui se perdent, eh bien, pensons à tous ceux qui nous entourent qui se perdent. Ce n'est pas de la blague, l'enfer, c'est une réalité. Revenons à une vie chrétienne maximale qui nous fixera nous-mêmes dans le Seigneur et qui sauvera ceux qui nous entourent. Le Saint-Esprit fera l'affaire. Mais disons notre choix au Saint-Esprit. Je veux une vie maximale. Et que ceux qui se perdent disent, Seigneur, je veux que tout cela s'arrête maintenant. Je ne veux pas me retrouver en enfer par négligence ni par distraction. Il n'y a pas de retour. C'est l'aller simple. Ce n'est pas comme quand on échoue en classe un trimestre, l'autre trimestre, on peut se rattraper. Là, c'est fini. On peut s'amuser avec tout. On peut perdre 2 ans d'études et recommencer les études. Aux États-Unis, il y a des gens même qui étudient à partir de 50 ans. On peut être sale 3 jours et se laver après. Mais lorsque on est perdu et qu'on va en enfer, c'est fini, une fois pour toutes. Donc on peut s'amuser avec tout, sauf avec cette affaire-là. Que personne ne s'amuse avec cette affaire-là. C'est dur de vivre l'éternité dans le feu. C'est très dur. Et ce qui est encore plus dur, c'est de se dire, mais le salut était à ma portée. Il suffisait que je saisisse ce que ce jour-là disait le prédicateur. Le salut était à ma portée. J'avais une Bible. Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais fou. C'est ça que tu étais. Ça, c'est encore plus dur de savoir que le salut était à ta portée, que tu ne l'as pas saisi. Aujourd'hui, le salut est à notre portée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Même si tu peux avoir honte des gens ici, mais chez toi-même, dans ta chambre, tu dis c'est fini avec ces histoires-là d'égoïsme, c'est fini avec ces histoires d'orgueil, de mener ma vie comme moi-même je veux. Bien-aimé, les gens se perdent. Et si tu penses que toi tu es sauvé, tu dois dire c'est fini avec ces histoires-là. Alors que je suis chrétien, je continue toujours à penser à moi, à moi, à moi, à moi. Que j'ai un bon travail, des beaux vêtements, que je sois guéri, que j'ai ceci. Toujours moi, moi, moi. Non, bien-aimé, toi, tu es déjà sauvé. Il y a des gens qui se perdent. Pense à eux maintenant. Sois pur pour eux. Même si tu ne veux plus être pur pour toi, tu es tellement accablé par la tentation que tu veux tomber dans le péché. Mais pense à tout ce que tu vas entraîner dans ta chute quand toi tu tomberas. Peut-être que toi, en tombant, tu vas après demander pardon, tu vas te relever. Mais eux, dans leur tête, ils considéreront que la vie chrétienne ne transforme pas les gens. Ça ne sert à rien d'y aller. Pensons à ceux qui se perdent, bien-aimés. Ne regardons pas qu'à nous. Beaucoup de gens mènent une vie chrétienne personnelle dans le sens où ils viennent à l'église. Pour eux, pour se sentir bien. Ils rentrent à la maison. Pour eux, tout est pour eux. Il ne médite pas, mais Seigneur, que puis-je faire pour qu'à travers moi, les gens soient sauvés? Parce que c'est dur. Vous imaginez que les bébés tout beaux que nous voyons dans les maternités, ces bébés-là, quand ils vont grandir et qu'ils n'accepteront pas Christ, ils iront en enfer. Quel gâchis de telles belles créatures! Mais c'est une réalité que personne ne vous trompe. La mort de Christ est la preuve qu'il y aura l'enfer. Parce que s'il n'y avait pas ça, Dieu n'allait pas accepter que son fils meure, soit crucifié, humilié, puni comme cela, abandonné de lui-même. Ne nous laissons pas avoir par des pensées flatteuses, des fausses visions. La Bible est claire. Ceux qui ne croient pas en Jésus sont jugés et la colère de Dieu demeure sur eux. Et nous qui avons eu la grâce d'être sauvés, c'est le moment de se lever, de dire, Seigneur, je veux commencer maintenant à vivre pour les autres, pour sauver ceux qui se perdent. Vous savez, Dieu nous a donné beaucoup de promesses pour qu'on s'oublie. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il nous a donné beaucoup de promesses pour qu'on se tranquillise. Tu seras le premier, non le dernier. Il nous a dit ceci, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il nous a dit que toute arme forgée contre nous est sans effet. Au fait, il nous a donné, Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Il nous a donné toutes ces promesses pour qu'on soit tranquille et qu'on s'intéresse aux autres. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ces promesses parce qu'on veut que ce soit à notre avantage. Mais Seigneur, tu as dit ceci, moi je veux une voiture. Tu as dit cela, moi je veux, bien aimé. Et les autres se perdent. Non. Pose-toi plutôt la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le jour où Paul a rencontré le Seigneur, c'est la première question qu'il a posée au Seigneur. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que moi, je suis déjà sauvé. C'est bien. J'ai toutes les promesses pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi, bien-aimé? Vous croyez que lorsqu'on fait les cultes, on vient chanter là, tout ça, c'est en vain. Pendant que nous chantons, nous glorifions Dieu, il descend et il touche le pays, bien-aimé. Et toi, au lieu de venir adorer Dieu, glorifier Dieu, tu te retrouves à lécher les vitrines à Saint-Sever, bien-aimé, est-ce que tu peux tout acheter? Et même si tu achètes tous les vêtements, est-ce que tu peux porter tous les vêtements? Non, bien-aimé. Certains se disent, bon, moi je viendrai qu'au moment de la parole. Mais non, nous devons adorer Dieu. Il y en a qui se disent, bon, j'ai été le dimanche au culte, ça va. Bien-aimé, il nous faut une vie chrétienne maximale qui fasse que la puissance de Dieu se dégage pour sauver les autres. Pensons aux autres. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous prions que tu nous aides à mourir à nous-mêmes afin que les autres soient sauvés, Seigneur. Nous ne voulons pas par négligence nous retrouver en enfer, ni par distraction. Nous voulons prendre au sérieux ces avertissements, Seigneur, et vivre désormais afin d'être des instruments pour le salut du plus grand nombre, Seigneur. Aujourd'hui, nous prions encore, Père, que tu parles au cœur de ceux qui sont encore hésitants à se livrer corps et âme pour un salut total et que tu les convainc de lâcher prise et de te laisser, Seigneur, t'occuper de leur vie. Seigneur, il est écrit que tu as vaincu le monde et nous prions que tu nous enlèves la peur du monde, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de s'engager parce qu'ils ont peur plus tard de tomber encore. Or, le juste vivra par la foi. Nous devons avoir la foi que si tu es avec nous, tu nous préserveras de toute chute. Tu nous aideras, Seigneur. Qu'ils reçoivent cette conviction-là, cette force-là en eux, que tu les aideras et qu'ils ne s'inquiètent pas et qu'ils lâchent tout pour te suivre, Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, que les chrétiens prennent conscience que s'ils sont sur la terre, c'est pour continuer l'œuvre du salut, parce qu'ils sont le corps du Christ. Or, Christ est venu sauver et son corps donc continue le même travail, Seigneur. Que nous ne puissions pas venir à l'église d'une manière égoïste pour honorer un devoir personnel religieux, mais pour comme des instruments qui attirent ta gloire pour sauver l'humanité, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel, que nous ne résistons pas alors que ta voix est en train de nous appeler, Seigneur.